France Inter.
Et le 13-14, c'est parti avec vous, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'adieu à l'école pour des milliers de lycéens bacheliers depuis quelques heures, les résultats dévoilés ce matin. Plus de 85% de réussite avant repêchage. Nous serons à Évreux, en Normandie et à Nantes, dans un lycée qui lui a connu la mort de l'une de ses élèves cette année dans une attaque au couteau. Témoignage très fort de son directeur qui prend la parole. À suivre encore, les émissions de CO2 qui ne diminuent plus en France. Très légère hausse au premier trimestre, nous verrons pourquoi. De violents incendies en Grèce et en Turquie, nous serons sur place. Encore 14 départements en vigilance canicule dans notre pays. Prévision complète dans une demi-heure et nous verrons comment on prévient les incendies en Provence. Nous serons également en Chine. Bonjour Sébastien Berger.
Bonjour.
Vous y êtes notre correspondant. Pékin annonce ce matin des taxes contre le cognac français.
Oui, des droits de douane élevés jusqu'à 35%, même si certains producteurs de cognac pourront y échapper sous certaines conditions.
Et nous écouterons également la réaction des producteurs français. Sans oublier le coup d'envoi de la tournée mondiale du groupe de rock Oasis, ce soir à Cardiff, 16 ans après sa séparation. Nous serons au Pays de Galles et puis ses vols en série de vélo Vélib à Paris. À partir de 13h30, nous parlons musique avec Demos. Depuis 15 ans, ce programme a permis à 12 000 jeunes d'apprendre à jouer du classique. Des jeunes qui, sans cela, n'auraient jamais eu l'idée ni les moyens d'aller dans cette direction. Deux d'entre eux seront avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France, la pétanque. Record de participants ce week-end au Mondial, la Marseillaise. Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Alexandra Vandernoot.
C'est un souci parce qu'à un moment donné, je voulais même me faire couper les jambes pour les raccourcir. Non mais il faut être con, hein. Mais on est très con quand on est ado. Je me disais, mais quand est-ce que je vais m'arrêter de grandir, quoi ?
Elle se trouvait trop grande, voilà pourquoi elle demande la bamba à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Avant d'écouter la joie ou la déception des candidats au bac qui découvraient ce matin leurs résultats, je voudrais qu'on s'arrête dans un lycée de France qui a vécu une année scolaire particulièrement éprouvante. Notre-Dame de toutes aides à Nantes. Le 24 avril dernier, Justin, un élève de seconde, y a tué l'une de ses camarades de classe, Lorraine, 15 ans, de 57 coups de couteau. Depuis, cet adolescent est hospitalisé en unité psychiatrique. Il n'explique pas clairement son geste. Le directeur de l'établissement, Pierre Caplard, lui, a accepté de raconter cette épreuve à votre micro, Anne Bertrand. Vous l'avez rencontré.
Deux mois après le drame, on veut savoir déjà comment vont les élèves des deux classes de seconde, témoins directs de la scène.
Ils vont au mieux qu'ils peuvent aller après le drame qu'ils ont vécu. On a un œil plus particulier sur quelques-uns, mais ils vont bien.
Et les enseignants aussi vont mieux.
La présence de la famille de Lorraine à nos côtés a été très importante pour faire avancer les enseignants.
On perçoit chez Pierre Caplard une admiration infinie pour les parents de Lorraine.
Ils ont réussi à mettre la colère à distance quand, 4 jours après le décès de Lorraine, ils ouvrent cette cagnotte à destination de la santé mentale des jeunes. C'est un geste formidable.
Le chef d'établissement a également reçu dans son bureau la maman de Justin, l'agresseur. Pour lui, elle est aussi victime.
C'est forcément être plongé dans un espace qu'on ne désire pas, hein, cette maman. Voilà. Et pourtant, elle était présente pour accompagner la scolarité de son fils.
Concernant les 3 élèves blessés dans l'attaque, la jeune fille est revenue assez vite au lycée. Elle et 2 garçons étaient là, eux, en pointillés. Mais Pierre Caplard est sûr de les retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre. Le directeur de Toutes Aides est résolument du côté de la vie.
Show must go on et la vie est belle, la vie est dure, elle est rude parfois, mais il n'y a rien qui est plus fort que la vie. Donc il faut pouvoir avancer.
Le témoignage du directeur de Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, qui se dit aussi opposé au déploiement de portiques de sécurité à l'entrée des établissements, ça n'améliorera pas les choses. Il faut s'occuper de ce qu'il y a dans la tête de nos jeunes, dit-il. Entretien que vous retrouvez en vidéo sur le site de nos confrères d'ici Loire-Océan. Ce qui nous amène au résultat du bac 2025 dévoilé aujourd'hui pour les 720 000 candidats des filières générales technologiques et professionnelles. 85,75% de taux de réussite avant rattrapage, nous dit le ministère. C'est un tout petit peu plus que l'an dernier. À l'instant, les académies d'Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, de Corse, Grenoble, Lyon, Nice et Toulouse publient les leurs. Ce sera à 15h pour Guyane, Guadeloupe et Martinique et puis 20h pour la Polynésie. Pour les autres, c'était ce matin, et notamment à Évreux, où vous vous trouvez, on l'entend, Sophia Berada, bonjour.
Bonjour.
Lycée Léopold Sédar Senghor. Alors, ces résultats, évidemment, sont publiés sur Internet, mais toujours devant les lycées. Il y a encore des lycéens qui se déplacent.
Oui, à 11h30, les résultats sont affichés dans la cour. Le proviseur, Monsieur Lesage, ouvre la grille.
J'ai lancé l'ordre d'ouverture. Les élèves vont arriver. J'ai l'ordre d'ouverture de la porte. Donc, préparez-vous à leur laisser la place. Hein.
Et une centaine d'élèves se ruent à l'intérieur. Ils cherchent et trouvent leur nom sur les feuilles. Clara et Isée sont copines. Elles se jettent dans les bras l'une de l'autre.
Bah, mention assez bien, donc voilà.
Mention assez bien aussi.
J'avais peur de ne pas avoir de mention ou peut-être de ne pas avoir le bac. Ça dépendait des épreuves, je chantais pas trop des fois, donc voilà.
Après, je me disais, les autres matières, ça devrait aller, mais...
Bah, franchement, soulagée,
ouais,
voilà.
Ouais,
et puis, bah, on va profiter des vacances maintenant.
Et Medina, elle s'est mise à l'écart, elle est toute tremblante.
Bah, je l'ai juste, j'ai pas de mention.
Mais c'est déjà pas mal, elle revient de loin. Elle a été malade toute l'année, hospitalisée toute l'année.
À côté d'elle, c'est sa mère, elle pleure d'émotion, c'était important pour elle d'accompagner sa fille.
Parce que c'est des enjeux importants. Voilà, je l'ai eu, j'avais 17 ans, j'avais pas de bac. Forcément, elle a fait mieux. Ah, je suis trop fière. Bravo.
Ensemble, elles vont retrouver les profs de Medina pour récupérer son bulletin de notes. Eric, ça a déjà le sien, et mauvaise nouvelle pour lui.
Bah, j'ai pas eu mon bac, à 0,02 points après, du coup. Je vais juste passer les rattrapages, ça se passera bien, du coup.
Son prof de maths, monsieur aujourd'hui, veut chasser cette nonchalance.
Tu arrives en ayant l'air motivé. Hein, ouais. Tu veux la voir, tu es volontaire, t'as bien retenu tout ce que je t'ai dit dans l'année ?
Oui !
J'ai vu que la note de maths était beaucoup plus basse que ce qu'il est capable de fournir.
Eric passera les oraux de rattrapage mardi prochain, et si ça se passe bien, il reviendra au lycée à la rentrée, mais cette fois-ci pour commencer son BTS.
Oui, et puis il n'est pas lâché par ses profs, hein, on l'entend. Merci Sophia Berada en direct d'Évreux avec les moyens techniques de Johanna Gabric. Bon courage à tous ceux qui vont à la repêche. Comme on dit, pour les lycéens reçus, ce sont donc les vacances. Les premiers départs massifs pour cet été sont prévus ce soir sur les routes. Circulation rouge en Ile-de-France, dans le sens des départs. Ce sera rouge demain partout en France. Dans les aéroports aussi, ça coince. Mais là, en raison de la grève d'une partie des contrôleurs aériens, ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail et dénoncent la mise en place de pointeuses. Avec cette conséquence, un millier de vols annulés aujourd'hui, surtout à l'arrivée et au départ des aéroports parisiens. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes rendu à Orly ce matin. Tous les voyageurs cherchent un plan B.
Oui, deux jours de galère pour Rafik, qui espérait quand même pouvoir décoller ce matin.
Deux fois mon vol a été annulé hier, puis aujourd'hui encore annulé. Et là, j'ai dû prendre un Blablacar. J'ai dû payer 110 euros un Blablacar pour rentrer à Nice, que je prends là tout de suite. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content. C'est vraiment inadmissible.
Rafik s'apprête donc à faire 9 heures de voiture après avoir passé deux nuits à Orly. Mais le système D a ses limites. Pour partir à Pointe-à-Pitre depuis Paris, cette famille a pris deux trains différents depuis Avignon.
On avait notre vol qui était prévu hier matin, qui a été annulé. On l'a décalé à aujourd'hui, il a à nouveau été annulé. Donc dès qu'on l'a su hier, on a trouvé des billets d'avion au départ de Lyon. On habite à Avignon. On a appelé Air France en disant si on vient pour nos propres moyens, on nous a dit que c'était bon. Là, on n'arrive pas à embarquer. On nous dit que si on n'a pas pris le vol aller, le premier vol, notre réservation est annulée.
Voilà, autre configuration, monter à Paris en bus toute la nuit depuis Toulouse pour tenter de partir en vacances à l'île de la Réunion.
Ah, ça fait 10 heures de bus, avec pas beaucoup de place pour les jambes. Et du coup, on a essayé de dormir comme on a pu, c'est-à-dire 3 heures, grand max. Mais bon, c'est pour les vacances, alors on est content quand même, on accepte.
Et pour rappel, hein, ces annulations donnent droit à des remboursements et à des défraiements si besoin. Précision utile, car ce matin, la plupart des voyageurs que nous avons croisés à Orly entendaient les compagnies aériennes leur préciser qu'ils n'allaient pas forcément être remboursés.
Laurent Kramer pour ce reportage. Du monde dans les gares aussi aujourd'hui. 12 millions de billets TGV, Ouigo et Intercité ont été vendus pour des départs en juillet et en août, nous dit la SNCF. C'est un peu plus que l'an dernier à la même époque. Alors pour transporter ces voyageurs, la SNCF mobilise tous ses trains, 800 par jour, et il faut que la maintenance suive. À Pantin, près de Paris, on supervise les trains qui feront notamment la liaison cet été entre Strasbourg et Quimper. Maxime Deps nous fait visiter les ateliers.
50 rames sont ici vérifiées dans un balai permanent qui ne laisse aucun répit à Frédéric et ses équipes. Ce matin pour ce TGV à l'arrêt. C'est l'heure des révisions avant les vacances.
Alors là, on nous a signalé un store.
Un store resté bloqué, voiture 8, ce qui est loin d'être un détail.
Surtout pour le soleil actuellement, il faut arriver à le résoudre le problème en un temps record.
Ne rien laisser au hasard, c'est la mission également de Marie, saisonnière à la maintenance.
Il faut que ce soit correct, que ce soit conforme et si ça ne va pas, on remplace.
Les signalements au nombre de 8 en moyenne sur chaque rame, celle-ci oblige, on va dire, à être polyvalent.
Un néon qui était défectueux, bon, on change. Et on avait dit quoi ? Les toilettes. Bon, bah, faut intervenir.
Vérification également de la sono, qui pour le coup fonctionne bien.
Évitez de bloquer les portes, ça nous fait des défauts.
Voilà, l'enfant engueulé.
Mais mieux vaut subir le caractère de ses collègues que le mécontentement des clients. Le pire, imaginez une clim qui lâche sur le trajet. Là aussi, les techniciens comme Yann tentent de parer à tout.
Sur le mois de juin, on a déjà fait pratiquement 300 interventions sur tout ce qui est climatisation, ventilation des rames. C'est le travail de la maintenance.
La maintenance, travail de l'ombre sur la route du soleil qui occupe plus de 800 agents dans ses ateliers toute l'année.
Maxime Debs, train, voiture, avion, les transports font partie des secteurs dont on mesure chaque trimestre les émissions de CO2. Depuis plusieurs années, ces émissions diminuent en France. Je rappelle l'objectif, limiter le réchauffement climatique. Pour la diminution, c'était par exemple moins 7% entre 2022 et 2023. Et bien, coup d'arrêt au premier trimestre 2025. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est ce que nous dit le CITEPA, l'organisme qui tient les comptes.
Oui, c'est un coup de frein au premier trimestre 2025. Les émissions de CO2 de la France remontent même légèrement, plus 0,2%. Il y avait pourtant une belle dynamique en 2022 et 2023. Mais les données provisoires pour l'ensemble de l'année 2025 sont mauvaises. En 2025, la France ne baissera ses émissions que de 0,8% contre 1,8% en 2024.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat ?
Eh bien, si on regarde dans le détail, au premier trimestre 2025, le secteur le plus émetteur en France, les transports diminuent ses rejets, l'industrie et l'agriculture aussi, mais ceux des bâtiments augmentent, plus 5% par rapport à la même période en 2024. Alors certes, il a fait froid cet hiver, on a monté le chauffage, mais il y a aussi un relâchement dans les politiques publiques, c'est ce que dit un rapport du Haut Conseil pour le Climat, publié mercredi. D'après ce rapport, la confusion autour de l'arrêt ou pas de MaPrimeRénov a freiné la rénovation énergétique des bâtiments. Or, la rénovation fait diminuer les rejets de CO2. Rappelons que la France doit baisser ses émissions globales de 5% par an, pour atteindre son objectif climat 2030. Or, on serait à moins 0,8%.
Ces chiffres sont très mauvais, ils appellent à un sursaut collectif. Commentaire sévère ce matin de la ministre de la Transition écologique à ces résultats, Agnès Pannier-Runacher. Du côté des associations de défense de l'environnement, on va dans le mur, alerte Anne Bringot du réseau Action Climat.
La situation elle devient clairement dramatique, puisqu'on a des impacts du changement climatique qui sont de plus en plus graves, on l'a vu avec les canicules, et face à ça, on a des reculs. Il faudrait vraiment que ces chiffres soient un véritable électrochoc pour le gouvernement et les parlementaires. Il faut des mesures supplémentaires en urgence pour des mobilités moins polluantes, pour la rénovation performante des logements. Et ça permettra en plus de sortir plus rapidement des énergies fossiles qui sont majoritairement importées et de faire baisser la facture d'énergie.
Anne Bringot au téléphone de Sandy Dauphin. Alors que la Suisse nous apprend ce matin que la neige et la glace accumulées dans les Alpes suisses au cours de l'hiver dernier, cette neige et cette glace ont déjà fondu. Généralement, ce seuil est atteint au mois d'août. Les glaciers suisses vont donc encore reculer cette année. Tout cela sous l'effet évidemment de la chaleur qui dans notre pays reste accablante. Dans le sud-est, 14 départements sont en vigilance orange canicule. On attend jusqu'à 39 degrés cet après-midi en Provence avec de forts risques d'incendie. Nous verrons cela sur place en Provence dans un instant. Mais d'abord allons en Turquie pour retrouver notre correspondante Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour à vous.
En Turquie, la région touristique d'Izmir est en proie à de violents feux de forêt.
Oui, avec des sols craquelés par la sécheresse intense en Turquie cette année, des vents violents et tournants, un véritable cauchemar pour les pompiers qui ont dû lutter contre plusieurs centaines de foyers dans cette région sur la côte de la mer Égée. L'un des deux plus gros incendies près de la métropole d'Izmir a fini par être maîtrisé, mais les flammes se sont propagées dans plusieurs districts. Le travail des hélicoptères et des avions est en outre entravé par ces vents soufflant à plus de 80 km/h et par une épaisse fumée. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, le bétail emporté en catastrophe sur des tracteurs, des dizaines d'habitations détruites et deux victimes, un vieillard grabataire qui n'a pu être évacué à temps et un ouvrier forestier qui tentait de contenir les feux. 6 avions, une vingtaine d'hélicoptères restent mobilisés et ce n'est que le début de la saison. La Turquie a enregistré plus de 600 départs de feu cette semaine. Des incendies de plus en plus souvent causés par des lignes électriques défectueuses. L'alerte rouge est déclenchée. Les températures devraient monter à 40 degrés dans les prochains jours. Même combat dans la Grèce voisine, Jérôme. Plusieurs milliers de touristes ont dû être évacués de Crète et la capitale Athènes est menacée par les feux.
Marie-Pierre Véro en direct d'Istanbul. En France, face aux mêmes risques, les autorités prennent donc les devants dans le Var. L'accès au public n'est autorisé que dans 9 massifs forestiers du département. Dans les Bouches-du-Rhône, des pompiers sont prépositionnés. 13 massifs forestiers sur 25 sont même interdits d'accès. Rémi Hink s'est rendu dans le massif Sainte-Victoire, à l'est d'Aix-en-Provence.
Avec 9 feux sur 10 qui sont d'origine humaine et des prévisions météo très défavorables pour les jours à venir, ces fermetures de massifs forestiers...
Je pense que c'est nécessaire. Si les gens se comportaient tous bien, il n'y aurait pas besoin.
Lucie les comprend parfaitement. Elle qui se balade souvent avec son chien, elle voit régulièrement des comportements dangereux et inconscients.
Oui, fumer, c'est fréquent. Partout, dans les calanques, on voit toujours des gens fumer. Quand vous voyez quelqu'un fumer, c'est de lui dire de faire attention à son mégot et même à sa manière de fumer. Parce que je pense qu'avec à quel point c'est sec aujourd'hui, ne serait-ce qu'en tapotant sur votre cigarette, il y a un risque, quoi.
Massif forestier fermé, appel à la vigilance et déploiement préventif des pompiers dans 80 sites des Bouches-du-Rhône. Le commandant Stéphane Guyot, porte-parole du SDIS 13.
Le département des Bouches-du-Rhône, le SDIS 13, donc, prépositionne, en plus des 500 pompiers dans les casernes, prépositionne de 200 à jusqu'à 500 pompiers. Donc on double la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers pour faire face à ce risque qui est prégnant et qui va l'être encore les semaines et les jours à venir.
En ce moment, les pompiers constatent et combattent 5 à 10 départs de feu par jour dans le département des Bouches-du-Rhône.
Reportage ici Provence.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
11 jours pour trouver 40 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État. François Bayrou fera ses propositions pour limiter le déficit public le 15 juillet. Mais puisque le problème n'est pas nouveau, son prédécesseur, Michel Barnier, avait commandé à l'automne dernier un rapport sur l'argent public qui aide les associations. Exemple, les dons que vous faites et qui ouvre droit à des réductions fiscales. Bonjour Caroline Phoenix. Vous avez pu consulter ce rapport qui propose, par exemple, de rendre ces réductions fiscale moins avantageuse.
Oui, aujourd'hui, lorsque vous faites un don de 100 euros, vous en récupérez 66 en réduction d'impôts. C'est même 75 si vous donnez à des associations particulièrement essentielles comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Cela représente un effort de 3,5 milliards d'euros chaque année pour l'État. Alors, pour récupérer quelques centaines de millions d'euros, le rapport propose de plafonner cet avantage à 2000 euros par foyer. Ça concerne a priori des personnes plutôt aisées qui donnent plus de 3000 euros par an. Autre piste du rapport, rendre moins avantageux les réductions fiscales accordées aux très riches, ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Le rapport veut notamment le réduire à 50%.
Est-ce qu'on sait, Caroline, si ces pistes ont des chances d'aboutir ?
Alors, le texte lui-même met en garde sur les effets contre-productifs de certaines de ces propositions. Il redoute qu'elles aient, je cite, « un effet psychologique négatif et dissuade des contribuables à donner aux associations. Ces économies auront un impact potentiellement significatif sur les politiques publiques considéré. Voilà ce qui est écrit. Et le ministère de l'économie nous dit ce matin que ce rapport sera étudié attentivement, mais il ajoute, ce n'est pas la priorité du moment d'aller faire des économies dans le secteur associatif.
Merci Caroline Félix. Toujours dans l'actualité économique de ce vendredi, la Chine va donc taxer dès demain les brandies qu'elle achète en Europe, essentiellement le cognac français. L'annonce a été faite ce matin. C'est une mesure de rétorsion aux taxes de l'Union européenne sur les voitures électriques chinoises. Ces mesures sont inéquitables et injustifiées. Voilà la réaction de la Commission européenne. Sébastien Berriot, on vous retrouve. Vous êtes notre correspondant en direct de Pékin. Sébastien, il faut quand même dire que certains producteurs pourront en partie échapper à ces taxes.
Oui, c'est ça. Certains producteurs, mais pas tous. En gros, ceux qui accepteront de faire des efforts sur les prix pourront échapper aux droits de douane. Ils devront pour cela se soumettre à des tarifs maximum fixés par Pékin. Alors, c'est mieux qu'une taxe, mais cet accord va tout de même limiter les recettes des professionnels du cognac en les empêchant de fixer et surtout d'augmenter leurs propres prix sur le marché chinois. Pour les autres producteurs, ceux qui n'auront pas conclu d'accord financier avec la Chine, Chine. Là, les résultats de l'enquête anti-dumping s'appliqueront de manière pleine et entière, avec des droits de douane lourdes conséquences, jusqu'à 35%, et ce pour une durée de 5 ans. Alors c'est un sérieux camouflet pour les autorités françaises, qui ces derniers mois n'avaient pas ménagé leurs efforts pour essayer de faire pression sur la Chine, en vain, comme si les Chinois n'avaient toujours pas digéré que Paris soutienne, l'année dernière, les nouveaux droits de douane européens sur les importations de voitures électriques chinoises. C'est aujourd'hui clairement une mesure de représailles.
Sébastien Berriot, en direct de Pékin. C'est donc un accord qui a été passé entre la Chine et certains producteurs français. Et c'est un moindre mal pour Florent Morillon, président de l'interprofession du cognac.
Très concrètement, la Chine a dit aux entreprises, si vous engagez à des prix minimum à l'importation, vous serez exempt de taxes. Donc, ça veut dire que ça leur permet de continuer à exporter sur le marché chinois, contrairement à des taxes à 35% où là, vous perdez le marché. Mais bien sûr, ça les met dans des conditions plus défavorables. On est dans des situations défavorables, mais ça nous permet de continuer à rester sur le marché chinois. Le marché chinois, c'est notre premier marché en valeur. On est à plus ou moins 3 milliards de chiffre d'affaires sortis région. Et la Chine peut représenter 1,4 milliard de ces 3 milliards. Donc, on n'a pas eu le choix, si ce n'est de se dire, on rentre dans cette logique, on accepte. Mais ce n'est qu'un point d'étape. Nous, on va continuer le combat.
Florent Morillon avec Mariam El Kurdi. L'attaque de drones sur l'Ukraine, la plus massive depuis le début de la guerre. C'était la nuit dernière. 550 engins russes lancés, drones et missiles. Selon les autorités ukrainiennes, il y a au moins 23 blessés. Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doivent se parler cet après-midi. Hier, le président américain a échangé avec Vladimir Poutine. Et au lendemain de cet entretien, la Russie explique ce matin qu'elle doit poursuivre son opération militaire spéciale car, je cite, « ses objectifs ne sont pas atteints par la voie diplomatique ». En France, une employée des impôts mise en examen et écrouée dans l'enquête sur l'agression d'un surveillant pénitentiaire. C'était en septembre dernier à son domicile. Cette femme aurait effectué des recherches dans la base de données de l'administration fiscale sans aucun lien avec ses missions avant de les transmettre à des complices dans le milieu du banditisme. Mais qui en veut au vélo en libre-service à Paris, les fameux Vélib. Depuis quelques semaines, il est bien difficile de mettre la main sur un deux-roues qui fonctionne, qu'il soit mécanique ou électrique. En question, des disparitions, 640 chaque semaine, c'est du jamais vu. Alors il faut dire que ces vélos sont toujours retrouvés, vous allez nous expliquer ça. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
Mais d'abord, il faut dire que ça tombe à un bien mauvais moment.
Et oui, en plein été, l'utilisation des Vélib augmente, soleil, chaleur, les Parisiens, les touristes, plus nombreux en ce moment, aiment le vélo dès le printemps, plus 20% d'utilisation d'ailleurs au mois de mai. Or, des vélos ne sont pas remis correctement aux bornes à l'arrivée, il n'y en a donc pas assez, cela. Les utilisateurs le ressentent. Théodora Lebanner vient de les interroger.
C'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le soir de la fête de la musique, j'ai fait au moins 8 stations, et que ce soit les verts ou les bleus, il n'y en avait aucun qui marchait.
C'est surtout que j'ai du mal à les poser. Il n'y a jamais de place, c'est toujours blindé, ou alors les Vélib sont cassés, donc on ne peut pas les utiliser. Ouais, là, j'ai beaucoup, beaucoup de verts, ou alors c'est des bleus qui ne sont pas chargés. Donc je pense que justement, il n'y en a pas assez, donc ils tombent tous, et au final, on est souvent à court.
Et il y a donc ce constat que vous évoquiez, Jérôme, 640 oui. Vélib disparaissent toutes les semaines. Ils sont heureusement retrouvés grâce au signalement des utilisateurs, mais les autres vélos sursollicités tombent en panne dans le même temps. 3000 vélos en panne en ce moment, c'est un cercle vicieux. Des Vélib qui sortent des radars, simple négligence, parfois on oublie de les reposer aux bornes. Fraude, plus souvent, contre laquelle Sylvain Réfaud de l'AGMOB, l'organisme public de gestion, entend lutter.
On a des phénomènes de fraude qu'on a identifiés, on en a compris les mécanismes. Schématiquement, ce sont des personnes qui font opposition à la carte avec laquelle le service a été souscrit avant la première facturation. Voilà. Et du coup, ils partent avec les vélos, ils les rendent jamais, ils sont jamais facturés.
Et on peut pas les facturer après.
Ouais, exactement. Et Paris n'est pas isolé dans ce cas-là. Des vélos indisponibles ou dégradés, c'est le cas dans d'autres villes. Bornes arrachées à Bordeaux, il a fallu tout changer. À Lyon ou Marseille, des centaines, voire des milliers de cycles sont indisponibles, comme dans la capitale, pour cause de vandalisme ou de surutilisation.
Merci William Delesseux. Le rappeur Freeze Corleone ne se produira pas dimanche soir aux Eurockéennes de Belfort. Décision du tribunal administratif de Besançon ce matin qui valide la décision de la préfecture d'interdire sa présence. contestation, décision à laquelle s'opposait le Festival des Eurockéennes ainsi que l'artiste. Le tribunal administratif estime que les textes qui devaient être chantés sur scène font effectivement l'apologie du nazisme ou du racisme. Fin de citation. C'est un stade qui fait d'habitude plutôt l'actualité du rugby. Mais ce soir, il accueillera l'événement musical du jour, voire de l'année, disent certains spécialistes musicaux, le Principality Stadium de Cardiff au Pays de Galles, avec sur scène le duo mythique du rock britannique Oasis, Liam et Noël Gallagher, qui se reforment sur scène 16 ans après, début d'une tournée mondiale, 900 000 billets vendus, ils auraient pu en écouler plusieurs millions. Il y a donc beaucoup de déçus et il y a les heureux qui sont avec vous. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Cardiff, c'est pour les fans la fin d'une très longue attente.
Oui, et on dirait bien que Cardiff, c'est le centre du monde du rock aujourd'hui. Dans le train qui venait de Londres ce matin, on parlait anglais, bien sûr, tous les accents d'anglais, allemand, suédois, espagnol. On est venu de partout pour assister à ce tout premier concert de la tournée Oasis, de la quarantaine de dates sur les prochains mois. Nick et Stéphanie, eux, ils ont traversé un océan. Ils viennent du Wisconsin aux États-Unis. Cette tournée, ils comptent bien en profiter.
Nous avons aussi des billets pour Mexico City et lui ira à plusieurs concerts aux États-Unis.
Chicago au moins, peut-être New York. Mais là, c'est le premier concert, c'est le plus important. Je devais y être. C'est un groupe génial. J'ai vu Liam et Noël plusieurs fois, mais jamais Oasis. J'ai raté leur dernière tournée américaine. J'ai commencé à être fan juste avant leur séparation. Je n'arrive toujours pas à y croire.
Alors autour du stade, les routes sont bloquées, les pubs sont pleins à craquer, ils jouent un peu du Oasis. Alors on n'a pas encore commencé à faire la queue, ceux qui sont arrivés tôt ont déjà pu dégoter un bracelet, un précieux sésame qui va leur donner accès à la fosse, tout devant la scène. Alors même ceux qui n'ont pas eu de billet se ruent sur le stand de produits dérivés, le Bob Noir connaît un certain succès. Certaines fans craignent quand même que les frères Gallagher ne se brouillent à nouveau, interrompent cette tournée tant attendue. Pour l'instant, c'est surtout l'excitation quand même qui domine. Plus que 5 petites heures d'attente avant l'ouverture des portes.
Allez, on verra si cette tournée va au bout. Merci Emeline Vin en direct de Cardiff. Là, c'est un tout autre univers. On célèbre cette année l'anniversaire du robot Goldorak. 50 ans, le géant star d'Antenne 2 en France à la fin des années 70. Et l'une des vedettes de la Japan Expo, le festival de la culture populaire japonaise qui se tient jusqu'à dimanche au parc des exposition de Villepinte, au nord de Paris. Victor Vasseur, vous vous y êtes rendu, vous avez constaté que le robot inventé par le mangaka Gonai continuait de séduire.
Les poings fermés, les bras écartés, Serge, 50 ans, pose à la manière de Goldorak, entre deux statues du robot.
J'ai le manga, j'ai l'animé, et ça m'arrive de les re-regarder. Pour moi, c'est des périodes de bonheur, d'enfance, d'insouciance. Ça rappelle tout ça.
Les murs de l'exposition sont recouverts de planches de manga et d'illustrations originales. Arnaud, 55 ans, était impatient de venir.
J'ai mon fils de 16 ans qui est à côté de moi. Je lui ai montré les DVD Goldorak. Il a accroché. Comme quoi, ça a bien vieilli.
Vous avez bien aimé ?
Oui, j'ai adoré. C'est le premier un peu animé que j'avais connu. Surtout le style graphique, il y a un dessin par rapport aux explosions, l'histoire et tout, j'ai accroché.
Et parmi les invités de l'événement, Enrique, la toute première voix du générique.
Viens défendre notre terre de justice et d'amour.
Pour toute une génération, celle du club Dorothée, Goldorak a été un premier pas dans la culture japonaise.
Et c'est le papy des mangas qui a ouvert la porte à des Captain Flame, à des Albator, à des Bioman, à des Xor. Tout le système manga en général, il a créé la première marche, c'est sûr.
50 ans après, Goldorak a toujours la cote. Il est encore adapté en bande dessinée, en dessin animé et en jeu vidéo.
Victor Vasseur nous rafraîchissait la mémoire. Entre 200 et 250 000 visiteurs par an à cette Japan Expo, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis à partir de 13h30, aider de jeunes Français issus des quartiers ou des zones rurales à jouer de la musique classique. C'est l'objectif du programme Demos et ça fonctionne. C'est la question de l'accès à la culture. On en parle avec vous, vous nous appelez 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jean-Baptiste, direction Marseille avec vous.
Oui, c'est un rendez-vous incontournable de l'été à Marseille et le plus grand concours de pétanque au monde. À partir de ce week-end, le Mondial La Marseillaise va réunir plus de 14 000 joueurs, record battu.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Une comédienne belge, mais qui a fait une grande partie de sa carrière en France. Il s'agit d'Alexandra van der Noot, qui sera tout l'été sur la scène du théâtre de Passy à Paris, dans la comédie Amour, Gloire et Secret. Et avec elle, nous écouterons un tube de la fin des années 50, La Bamba de Richie Valens.
On va danser, à tout à l'heure.
Col Propur. Col pour un collagène naturellement présent dans le corps. Col Propur. Pro pour l'expertise d'un fabricant depuis 1985. Col Propur. Pur pour des formules rigoureusement sélectionnées. Col Propur, spécialiste du collagène depuis 40 ans. Disponible en pharmacie, parapharmacie et sur colpropur.fr. Un complément alimentaire ne peut se substituer à une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
France Inter, partenaire de L'Accident de piano, un film de Quentin Dupieux.
Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant. Je suis trop pressée d'en savoir plus.
Magali, une star du web hors sol et sans morale, voit sa vie basculer quand un accident grave arrive sur un tournage.
Ça y est, vous êtes contente là ?
Ah ben non, on va pas s'arrêter en si bon chemin.
L'Accident de piano, avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin et Karim Leclou. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
On reparle de l'anticyclone des Açores.
Oui, on nous parle souvent des gouttes froides, des dômes de chaleur. Alors revenons un peu aux fondamentaux de l'été. Aujourd'hui, l'anticyclone des Açores, avec des hautes pressions, qui s'étirent du milieu de l'Atlantique vers l'ouest du continent et qui nous garantissent un temps chaud et bien ensoleillé. Le Mistral et la Tramontane restent sensibles jusqu'à 50-60 km/h en rafale. Quelques nuages circulent encore sur la moitié sud, mais c'est sur le relief qu'ils bourgeonnent de nouveau cet après-midi, avec des orages sur la chaîne pyrénéenne, le sud du Massif central, le sud des Alpes, l'intérieur de la Provence et la montagne Corse. Ces orages pourraient de nouveau déborder ce soir en plaine de Languedoc. Les températures caniculaires régressent, mais du Dauphiné au pourtour méditerranéen et à la Corse, 14 départements restent en orange, avec 34 à 37 degrés en général cet après-midi, jusqu'à 36 à 38 de la Provence au Roussillon. Ailleurs, il fait chaud, plus modérément, avec 28 à 33 sur le reste de la moitié sud, 25 à 30 sur le nord, mais 21 à 24 près de la Manche et sur les littoraux bretons.
Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'était il y a deux semaines sur la prestigieuse scène de la Philharmonie de Paris. Sur scène, des dizaines de jeunes venus de toute la France, banlieue et campagne, avec leurs instruments. Et dans la salle, venus les applaudir, leurs parents qui les dévorent du regard. Certains ne résistent pas au plaisir de crier leur prénom. Comme dans un stade, sans le programme Demos, ces familles n'auraient sans doute jamais poussé les portes de la grande salle parisienne. Demos, c'est un réseau initié par la Philharmonie de Paris qui, depuis 15 ans, a permis à 12 000 jeunes issus de familles modestes d'accéder à la musique classique. Ce réseau compte aujourd'hui un peu moins de 50 orchestres installés partout en France. Et les jeunes qui en ont fait partie y ont appris bien plus que la musique. Nous voulions vous en parler aujourd'hui parce que c'est un beau projet, mais aussi parce que ça peut intéresser des jeunes chez vous ou près de chez vous. Donc appelez-nous 01 45 24 7000. C'est la question de l'accès à la culture, c'est la question de la découverte de la musique dont on parle aujourd'hui dans le 13-14 avec Sally Diane. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Parlez bien dans le micro. Vous avez 19 ans. Vous venez de Paris, 11e arrondissement. Vous jouez du violon. Pourquoi le violon ?
Alors, dans le centre dans lequel j'ai commencé à faire de la musique, c'était un centre où il n'y avait que des cordes. Donc, violon, alto et violoncelle. Je ne connaissais pas du tout l'alto, du coup, ça ne m'intéressait pas trop. Et ma grande sœur jouait déjà du violoncelle. Du coup, je pense qu'elle n'aurait pas trop apprécié que je la copie. Du coup, j'ai choisi le violon.
Et votre grande sœur était aussi passée par Demos ?
Oui, elle a arrêté maintenant, mais...
Youssef avec nous également, votre grande sœur donc a bien appris avec ce dispositif Demos. Youssef Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 19 ans vous aussi, vous habitez Paris 20e et vous êtes venu avec votre tuba. Pourquoi le tuba ?
Alors le tuba parce que comme Sally dans mon centre aéré où il travaille avec Demos, il proposait que des cuivres et c'était l'instrument où personne... que personne faisait et je me suis dit autant être utile et choisir le phonium.
Vous avez choisi après les autres ? Vous avez exactement. Vu tout le monde choisir un instrument, il restait le tuba, vous vous êtes dit pourquoi
c'est,
pas ?
C'est aussi parce que je suis rentré en plein milieu du cursus, en deuxième année, c'est un cursus de 3 ans et je suis rentré en deuxième année, donc il n'y avait personne et je me suis dit autant en faire.
J'ai l'impression que vous ne regrettez pas ce choix.
Non, je ne sais pas.
Un grand sourire. Merci d'être là. Merci à Éric Lemaire d'être là. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint du projet Demos, bien dans le micro également. Présentez-nous Demos, Éric Lemaire. Où et pour qui ?
Alors, Demos, c'est venu d'une idée originale de Laurent Bell, qui était à l'époque directeur général de la Cité de la Musique, donc qui a demandé à Gilles Delbar, pédagogue et ethnomusicologue, si on pouvait proposer un mode d'apprentissage de la musique classique un peu différent que celui du conservatoire. Donc, en commençant directement par la pratique instrumentale, avant de faire une année de solfège, de une à deux années de solfège.
Donc là, on va directement sur l'instrument ?
Voilà, on est sur la pratique, directement par le sensoriel, par ressentir la musique, et c'est dans un second temps, plutôt en fin de première année, début de deuxième année, qu'on commence à aborder la question de la lecture de la partition.
Donc ça, c'est la méthode. À quel jeune est-ce qu'on s'adresse ?
Alors, on s'adresse à des jeunes, donc on parle de jeunes qui n'ont pas un accès facile à la musique, donc des jeunes des quartiers populaires, mais aussi des jeunes en ruralité, où il y a peu d'équipements culturels. Donc on parle d'accès, mais de démocratisation à la musique. Donc à travers le mode, la pédagogie, le mode d'apprentissage, comme on l'a vu, et aussi donc, en s'adressant à ces jeunes qui pourraient considérer que la musique classique est réservée pour une élite, mais non, c'est le patrimoine culturel de tout le monde, et il doit avoir accès à ce patrimoine.
Sally, comment est-ce que vous avez découvert le dispositif Demos ? Comment est-ce que vous avez intégré cet orchestre ?
Alors, comme j'ai dit, ma grande sœur faisait aussi du violoncelle au sein du projet Demos. Et du coup, on avait le centre, en fait. C'est un centre qui, de base, faisait de l'aide aux devoirs, juste à côté de chez nous. Et quand ils ont commencé le projet Demos, ils ont proposé à ma grande sœur de commencer à faire de la musique là-bas. Donc, elle a commencé à jouer du violoncelle là-bas. Et du coup, quand je suis entrée en CE1, on m'a proposé aussi d'intégrer le projet.
Donc, c'est par votre sœur, évidemment, que vous avez rencontré ce projet. Est-ce qu'il y avait des instruments de musique à la maison ? Est-ce que vous écoutiez de la musique classique ? Quel rapport vous aviez avec ce type de musique ?
Alors, je viens d'une famille dans laquelle on ne fait pas du tout de musique. Donc, il n'y avait pas d'instruments à la maison. Je me souviens pas, je pense pas qu'on écoutait de la musique classique non plus. Donc, c'est vraiment par le projet Demos que c'est rentré un peu dans notre vie.
Quelle musique vous écoutiez chez vous ? Si vous écoutiez de la musique d'ailleurs ?
C'est vrai que j'étais jeune, mais j'imagine qu'on écoutait à peu près, tout ce qui passait à la télé. On écoutait un peu de musique sénégalaise aussi de temps en temps.
Ouais, parce que c'est vos origines ?
Oui, c'est ça. Oui. Mais pas de musique classique en tout cas.
Et le premier contact avec le violon ?
Comment ça se passe ? J'étais contente. Après, du coup, c'est vrai que c'est pas un instrument qui est très... c'est pas facile à jouer. Mais du coup, ils ont bien pris leur temps, on va dire, avec l'apprentissage. Du coup, ça s'est toujours à peu près bien passé parce qu'on allait vraiment doucement.
Je vois que Youssef se prépare à jouer du tuba. Vous mettiez en position pour qu'on puisse vous écouter dans un instant, Youssef. D'abord, question, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes, Éric Lemaire, qui sont intéressés. Comment est-ce que vous choisissez ces jeunes ?
Alors, les jeunes sont recrutés directement par les structures sociales, puisque à chaque fois, c'est le fruit d'un partenariat, un orchestre, entre cette ville et donc cette structure sociale de quartier, puisque l'idée, c'est d'apporter la musique classique directement au cœur du quartier. C'est pour ça que les deux ateliers hebdomadaires ont lieu dans la structure sociale de quartier. Donc, ces deux ateliers sont animés par deux intervenants pédagogiques qui sont professeurs d'instruments ou musiciens d'orchestre. Et donc, il y a une personne qui est très importante aussi dans cet atelier, qui est le travailleur du chant social, qui la plupart du temps démarre un instrument en même temps que les enfants Demos.
Et donc il ne sait pas jouer, il apprend en même temps que les enfants.
Voilà, il se retrouve en position d'apprenant et donc il les accompagne. Donc ce trinôme accompagne chaque groupe d'enfants pendant les trois années.
Et comment ça se passe en milieu rural ? Est-ce que c'est le même système ? Est-ce que c'est la même approche ?
Oui, c'est la même approche. Alors dans les milieux ruraux.
Pas forcément via le centre de quartier.
Exactement. Donc, on engage des travailleurs du champ social pour accompagner le groupe. Donc, c'est une approche un peu différente. On a des problématiques, bien sûr, de transport dans les milieux ruraux où on doit rassembler les jeunes de petites villes toutes les semaines. Et donc, c'est un peu différent, effectivement.
Comment est-ce que c'est financé, ce dispositif ?
Alors c'est complètement gratuit bien sûr pour les enfants, on leur met un instrument à disposition pendant les 3 années et on leur offre l'instrument à la fin du dispositif s'ils souhaitent continuer la musique. Alors c'est financé par trois tiers, donc l'État, le ministère de la Culture qui nous soutient, les collectivités locales et la CAF, et ainsi qu'une communauté de mécènes, mécènes particuliers et mécènes d'entreprise.
Et partenaires privés, un tiers. Ça tient ce financement ?
Ça tient.
Pour les quasiment 50 orchestres ?
Ça tient.
Bon, pas trop d'inquiétude et le dispositif est reconduit l'année prochaine.
Exactement.
Youssef est en place. Et donc, Youssef, on va vous écouter au tuba. C'est un extrait de la sonatine de Jacques Castered. Merci Youssef d'avoir joué en direct dans ce 13-14 sur France Inter. Sally, on vous écoutera dans quelques minutes avec votre violon. Je le dis pour tous les auditeurs qui s'interrogent et qui se disent « Mais quand est-ce qu'on va écouter Sally ?» Comment est-ce que ça a commencé, Youssef, pour vous ? Est-ce que vous vous souvenez les premières années, l'apprentissage du tuba ? C'est difficile ?
Alors, moi je m'en souviens qu'au tout début, bah, du coup, je vous ai dit que je suis rentré en deuxième année.
Ouais.
Et honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt intuitif. Directement, j'ai rattrapé à peu près le niveau de
ceux qui étaient
en première année. Et franchement, j'avais des profs super et on nous poussait à aller toujours à mieux faire, à toujours approfondir notre technique. Et puis, j'ai directement apprécié aussi la musique. En fait, je m'y étais déjà intéressé tout seul. Et du coup, c'était vraiment juste un rêve qui s'est un peu réalisé, on va dire.
C'est-à-dire que vous aviez déjà fait ce chemin vers la musique classique ? C'est déjà quelque chose qui vous intéressait ? C'est déjà une musique que vous écoutiez ?
J'écoutais pas de musique. Comme je pense à peu près tous les enfants, je connaissais le piano ou par exemple le violoncelle ou des trucs comme ça, des instruments un peu connus. Et du coup, j'avais déjà un peu une idée de ce que c'était, mais j'avais pas... c'était qu'une idée, c'était pas la réalité de comment ça se présente, en fait, la musique classique, et surtout la musique en orchestre symphonique, en fait. Je connaissais pas du tout l'orchestre symphonique, et c'est ça qui m'a plu, c'est le fait de jouer ensemble, avec tous les instruments, violon, violoncelle, écouter tous les autres, et voilà.
Il y a un aspect collectif aussi, Sally, qui est très important.
Oui, évidemment. Et ça, c'est quelque chose dont on s'en rend compte, surtout en entrant au conservatoire. Mais c'est vrai qu'à Demos, on fait les cours ensemble. Ensuite, on est en orchestre. C'est-à-dire qu'il y a forcément des liens collectifs qui se forment. Et on est vraiment habitué à tout faire en groupe.
Alors, ça dure 3 ans, mais vous avez relevé, puisqu'il y a une étude de fait et qui a été publiée au printemps, Éric Lemaire, que près d'un tiers des 12 000 jeunes qui sont passés par ce dispositif conservaient ensuite une pratique de la musique en amateur. Donc, il y a un effet qui dure dans le temps.
Complètement. Alors, de façon générale, en moyenne, on a à peu près la moitié des jeunes qui font des MOS et qui souhaitent poursuivre la pratique, donc qu'on accompagne vers les conservatoires, donc vers un apprentissage plus traditionnel. Et puis donc, cette étude a montré qu'aujourd'hui, parmi les 60 jeunes qui ont été interviewés, donc c'est des jeunes qui ont fait des MOS entre 2012 et 2015, c'est une étude qualitative, donc des entretiens qui ont été menés avec ces 60 jeunes. Et donc le panel est représenté représentatif puisque dans, parmi les 60, il y avait 52% qui avaient continué la musique et puis les autres qui avaient arrêté à l'issue des MOS. Donc ce qu'on, les deux mots forts qui ressortent en fait de cette étude, c'est le mot chance de, d'avoir vécu cette ouverture culturelle, le plaisir de jouer en collectif et puis avoir appris aussi une certaine éthique du travail. Et le deuxième mot, c'est le mot fierté. Le mot fierté de se produire sur scène, de jouer un instrument de l'orchestre symphonique. Et puis aussi le mot fierté à travers les yeux des parents, vous le disiez tout à l'heure, quand on voit les parents dans...
Justement, Youssef, qu'est-ce qu'on ressent quand on joue pour la première fois devant sa famille ?
Tout d'abord, on rentre dans la scène et on essaye de chercher le regard de ses parents. Et même eux, ils nous cherchent, ils nous font des signes. Et on ne trouve pas. Et aussi, enfin, je sais pas si ça, c'était pareil, mais moi, la première fois, enfin, la scène, le public, je voyais tout noir, je voyais pas les, j'arrivais pas, je pense peut-être que c'était le stress ou
la trouille.
Ouais, bah, je voyais juste tout en noir, donc j'arrivais pas à voir en fait le public. Mais franchement, on est juste émerveillé parce que bah il y a les lumières, il y a toute une organisation, ils mettent les scotchs sur le sol, et puis, enfin, c'est vraiment incroyable. Et enfin ouais, même quand on sort et nos parents ils nous félicitent, ils m'envoient les photos de loin, de près, enfin c'est incroyable.
Ça rassemble aussi des jeunesses très différentes. Moi j'étais à l'un des concerts il y a 10 jours, il y avait des jeunes de Seine-Saint-Denis, il y avait des jeunes de l'Aisne qui jouaient une chanson traditionnelle de leur région. C'était un sacré mélange. Est-ce que vous l'avez vécu aussi comme ça, Sally?
Bien sûr, parce que à Desmous, je trouve qu'on vient vraiment tous de milieux très différents. Donc on est tous d'origines différentes, on vient tous de villes différentes. Et donc forcément, ça nous fait une ouverture, on va dire, sur ce qui est différent.
Ça vous apporte des choses aujourd'hui dans... Vous êtes sorti du dispositif aujourd'hui?
Non, je suis toujours...
Vous êtes toujours dans le dispositif. Est-ce que ça vous aide à l'école, par exemple, dans d'autres activités, une fois même que vous êtes sorti de l'orchestre, des répétitions ou des concerts?
Je trouve que ça aide à sociabiliser, on va dire, parce que quand on est dans un orchestre, on n'a pas le choix. Il y a juste tellement de personnes qu'on est obligé de parler à des personnes au fur et à mesure. Du coup, ça aide forcément à l'extérieur quand il faut aussi communiquer avec d'autres personnes. Et puis, je trouve que ça nous façonne bien, on va dire, pour tout ce qui est activité de groupe, parce qu'on est dedans, des petits.
Éric Lemaire, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent et qui se disent « Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour mes petits-enfants, ça m'intéresse moi, ou ça m'intéresse pour mes enfants ?»
Ce qu'on peut dire, c'est que déjà à la rentrée prochaine, on a 9 orchestres qui redémarrent. Donc ça veut dire, donc il y a 9 orchestres qui sont arrivés en fin de cycle en juin de cette année. Donc ça veut dire plus de 900 enfants qui vont intégrer le dispositif Desmos dans toute la France.
Et c'est pas trop tard.
Et c'est pas trop tard, parce que les structures sociales sont en train de composer les groupes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si vous entendez parler de Desmos dans votre quartier, dans votre en ruralité. Voilà,
ou partout ailleurs, il y a un peu moins de 50 orchestres, 46 ou 48, je
crois. Exactement, c'est ça.
Partout en France. Merci d'être venus tous les trois nous en parler. Et Sally Diagne, dans quelques minutes, au violon sur France Inter, ce sera pour clore ce 13-14, 13h47.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi, la France du sport, avec le journal L'Équipe et Jean-Baptiste René. Jean-Baptiste, vous nous emmenez aujourd'hui à Marseille.
Oui, où toute la ville va vivre pendant quelques jours au rythme des parties de pétanque. À partir de dimanche, on va chiquer, embouchonner, escagasser, on va pointer en haut ou en bas, chercher le carreau pour remporter la mène. Voici donc venu le Mondial, la Marseillaise, plus grand concours de pétanque au monde et rendez-vous incontournable de l'agenda phocéen. Plus de 4700 triplettes et donc plus de 14 000 joueurs vont s'affronter sur les 2300 terrains tracés dans la ville, principalement dans le parc Borély, où aura lieu la grande finale jeudi. D'ici là, palabres et mauvaise foi garantie. Partie de très haut niveau également, pour ce que Yves Mourosi avait appelé le Roland-Garros des boules, un jour de 1985 où le 13h de TF1 avait été délocalisé à Marseille. Une formule qui avait contribué à la notoriété d'un événement né dans les années 60 d'une dispute entre Paul Ricard et Gaston Defer. Defer est alors maire de Marseille et propriétaire du journal Le Provençal, qui organise un concours de boules à la longue, la discipline en vogue à l'époque. En riposte, Ricard contacte le journal La Marseillaise pour organiser un événement sportif et populaire. Ce sera de la pétanque. La première édition a lieu en 1962 et prend le nom de Critérium du Sud-Est Ricard.
Et c'est toujours là que se donnent rendez-vous les stars de la discipline.
Eh oui, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Marco Foyot, Dylan Rocher, les Zidane et les Mbappé de la discipline, tous multiples champions du monde, seront bien là pour chasser les records. À 72 ans, la légende Marco Foyot, déjà 6 fois vainqueur de l'épreuve, va ainsi tenter d'égaler le record de victoire détenu par Albert Pisapia. Ce serait une ligne de plus au palmarès étourdissant d'un gamin de région parisienne, devenu une célébrité et qui disait dans une récente interview au magazine L'Équipe « J'ai fait 20 fois le tour du monde avec 3 boules en acier ». Foyot dispense et monnaie son art de la discipline à travers la planète, donne des cours à de jeunes japonais comme à André Agassi, accompagnant la mutation et la mondialisation de ce jeu inventé en 1907.
Fini donc les parties à l'ombre des platanes avec un verre d'alcool à la main, ça c'est le cliché absolu, Jean-Baptiste René.
Alors pas tout à fait, mais ces dernières années, la pétanque a rafraîchi son image pour n'être plus seulement considérée comme une discipline franchouillarde pratiquée par des joueurs ventripotents. Alors elle le doit à certaines individualités, comme le tireur Dylan Rocher, dont les carreaux font des cartons sur YouTube, ou comme Tanguy Penin, qui se revendique influenceur pétanque. À 25 ans, ce freestyler évolue plutôt en marge du circuit traditionnel de compétition, mais ses figures en ont fait une star des réseaux sociaux et lui valent, comme Marco Foyot, des invitations à travers le monde. Reconnu comme sport de haut niveau depuis 2005 et forte de 303 000 licenciés, la pétanque aura bientôt son centre national, à l'image de Clairefontaine pour le foot ou de Marcoussis pour le rugby. 64 terrains, dont la moitié en intérieur, seront aménagés dans le petit village de Chaumérac en Ardèche, qui accueillera aussi le siège de la Fédération française. Celui-ci quittera ses locaux historiques du Panier à Marseille. Le mondial, lui, n'est pas prêt de déménager.
Et je signale que Pétanque, c'est aussi une exposition inédite au Musée d'Histoire de Marseille. Expo qui a ouvert hier, c'est jusqu'au 18 janvier et c'est gratuit. Merci Jean-Baptiste René pour ces 2 saisons de C'est la France. Avec L'Équipe, je voulais aussi remercier Clémentine Blondet qui a été votre alter ego ici le vendredi. Salut aussi l'ami Jean-Philippe Leclerc qui était avec nous plus tôt dans cette saison. Merci de nous avoir fait partager votre passion du sport.
Plaisir partagé justement, Jérôme. Merci.
Et vous serez toujours le bienvenu ici. Il y a un autre ami du 13-14 qui voulait en ce vendredi très particulier vous saluer. Aujourd'hui, on n'a pas pu le faire lundi, c'est Mathieu Avanzi qui lui aussi va filer vers d'autres routes l'an prochain. Mathieu, notre linguiste amoureux des mots de nos régions, nous a envoyé ce matin un petit message pour nous dire à quel point ce 13-14 a changé sa vie.
Alors, je me suis rendu compte que France Inter et notamment le 13-14 étaient beaucoup écoutés du côté de la Suisse romande et on m'a félicité pour exporter le travail qu'on faisait en Suisse du côté de la France. J'ai été très surpris, ravi en fait des retours que j'ai eus de la part des auditeurs et des auditrices par rapport à cette chronique, que ce soit pour me proposer des nouveaux mots ou pour réagir sur les mots que j'ai pu décortiquer en lien avec l'actualité. Alors, j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur les réseaux sociaux, mais également par le bouche à oreille et je remercie sincèrement tous les gens qui m'ont contacté, y compris les anciens avec lesquels on s'était parfois perdu de vue. La suite des chroniques, ça sera sans doute un livre qui sortira l'année prochaine, qu'on est en train de préparer, une mise à jour d'un autre ouvrage où on va pouvoir reprendre un peu ce qu'on a décortiqué dans le cadre de ces chroniques, notamment les mots qu'on a pu recevoir sur les réseaux sociaux avec le retour des auditeurs et des auditrices.
Et voilà, ça va se terminer par un livre. Vous pouvez continuer à écrire à Mathieu, il en est friand évidemment. Notre ami suisse via ses réseaux sociaux qui sera toujours le bienvenu, Mathieu Avanzi, dans ce 13-14 de C'est la France, un peu particulier aujourd'hui. Ah, c'est une chanson dernière de la saison aussi pour vous, Frédéric Pommier. C'est la comédienne belge Alexandra van der Noot qu'on retrouve à votre micro.
Aux côtés d'Andrea Ferréol, elle est jusqu'au 20 septembre à l'affiche du théâtre de Passy à Paris dans la comédie Amour, gloire et secret. Et c'est d'un tube de Richie Valens qu'elle a choisi de me parler, la bamba, reprise d'un air traditionnel mexicain. Souvenir de jeunesse pour Alexandra van der Noot.
À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait les premières soirées, les premières booms qu'on faisait dans les garages. Et les garages étaient très joliment décorés. Bien sûr, les voitures étaient sorties. Puis on mettait des lumières. Enfin voilà. Bon, bref, c'était les premières soirées avant d'être autorisé à aller en boîte plus tard. Et donc, en fait, Je me souviens, on était tous, enfin la plupart en tout cas, un peu gauche, un peu engoncée, nanana. Moi, j'étais déjà très grande à l'époque, et donc j'avais quasiment une tête et demie de plus que tous les garçons du même âge que moi. Et donc, La Bamba, c'était en fait une chanson qu'on passait à certains moments pour un peu détendre l'atmosphère et briser la glace. C'est-à-dire que tout le monde se mettait en cercle. Il y en avait un qui allait au milieu, qui était tiré au hasard, et sur la musique de La Bamba, le garçon en question, si c'était un garçon, il se mettait en face d'une fille, il mettait un genou à terre, il invitait la jeune fille à venir s'asseoir sur ses genoux et il se faisait un petit bisou ou plus, mais c'était très rare, en général c'était un petit bisou. Et puis après c'était la fille qui restait au centre du cercle et puis qui allait vers un garçon. Et moi, comme j'étais plus grande que la plupart des garçons, on ne m'invitait pas souvent à venir au milieu. Donc quand on lançait La Bamba, souvent je me précipitais la première, comme ça j'occupais la place. Et comme ça je pouvais à mon tour faire des invitations. Voilà. Bon, enfin tout ça a été très gentil. Je vous dis, j'avais 14-15 ans et à l'époque j'étais un bébé.
Donc c'est un souvenir joyeux que vous avez avec cette
Alors,
chanson.
Voilà, c'est un souvenir joyeux, c'est un souvenir d'adolescence, c'est un souvenir de copains, c'était voilà, les premières soirées, les premiers émois amoureux. Et chaque fois que ça repasse, ça me rappelle ça, je revois ces garages, les chips, les coca. Voilà.
C'est en 1958 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Chanson sur laquelle Alexandra van der Noot se précipitait donc d'aller danser. De peur qu'aucun garçon ne l'invite, du fait de sa grande taille pendant ses soirées garage, cette taille, elle lui a réellement posé problème quand elle était ado.
Oui, ça a été un souci parce qu'à un moment donné, je voulais même me faire couper les jambes pour les raccourcir.
Vous y avez pensé sérieusement?
Oui. Non mais il faut être con, hein. Mais on est très con quand on est ado. Surtout que j'ai poussé d'un coup comme ça, comme une asperge, comme un poireau. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais m'arrêter de grandir, quoi ? Maintenant, moi, je suis très contente parce que je trouve que le fait d'être grand, ça a énormément d'avantages. D'abord, on voit de loin. On voit très, très bien de loin. Quand on est dans une foule et qu'on cherche quelqu'un, ben, on le voit. Ou on est vu de loin, donc c'est pratique. On peut attraper les choses qui sont sur le dernier rayon au supermarché. Et souvent, on aide des petites vieilles dames parce qu'elles vous demandent « Vous pourriez me passer ce produit-là, bien sûr ?» Et donc voilà, je tends le bras et j'y suis. Donc maintenant, je trouve ça très chouette. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais complexée d'être grande.
Vous mesurez combien ?
1m78. Bon, c'est pas non plus gigantesque, puis vraiment on peut rien y faire. Et puis non, quand je vous disais l'opération pour couper les jambes, ça n'existe même pas. Je veux dire, la médecine a fait des progrès incroyables, mais j'ai jamais vu un truc qui existait. Et puis maintenant, je suis super contente. Mais ça m'a mis quelques années. Surtout, je vous dis, j'ai poussé comme ça, bam, d'un coup, et j'étais plus grande que tout le monde, et ça m'embêtait.
Cette chanson, Souvenir heureux et Souvenir de danse. Vous dansez, vous ?
Alors, moi, j'ai pris des cours de danse, évidemment, comme ma maman était danseuse, elle voulait me mettre à la danse. Enfin, en tout cas, c'était pour une histoire de bien se tenir, de se développer physiquement, etc. Mais j'ai détesté ça. À l'époque, les cours de danse classiques étaient donnés par des espèces de torsionnaires qui avaient une cravache à la main et qui vous tapaient sur les épaules, rentre le ventre, rentre les fesses. Enfin, l'horreur totale. J'ai dû faire 4 cours et j'ai arrêté. Mes parents m'ont également mise au piano parce que voilà, ça se faisait et c'était une catastrophe. Et donc j'ai choisi d'être comédienne parce que c'était ni l'un ni l'autre et c'était peut-être plus facile.
Richie Valens, La Bamba, c'était donc Frédéric, le choix d'Alexandra van der Noot.
Alexandra van der Noot que vous pouvez retrouver tout l'été dans la pièce Amour, Gloire et Secret, c'est au théâtre de Paris, de Passy.
Oui, mais Paris. C'est à Paris. Et vous Frédéric, on va vous retrouver tout cet été dans la matinale à partir de lundi 7h22, les meilleurs moments de C'est une chanson et vous serez fidèle au poste pour la 6e saison de ce rendez-vous auquel nous tenons tant. Ce sera le 25 août. Je vous souhaite un bel été.
Très bel été à vous
tous.
Nos
remerciements pour cette semaine et pour l'année avec la musique de Sally Diane. Allez-y, Sally, de l'orchestre Demos Avancés, extrait du premier mouvement du concerto de Bruch. Au nom de l'équipe du 13-14, je vais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à être avec nous tous les jours de cette saison 2024-2025. Nous vous espérons aussi nombreux la saison prochaine à la technique cette semaine. Merci à Élise Christophe et Florian Dorimini, la rédaction en chef Sonia Princé, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbona, assistée de Sylvain Lesage, Stéphane Rousset et Antoine Boucher, notre chargée de programme Claire-Sophie Collet. Merci aussi à tous les standardistes d'Inter. Merci Sally Diane et bravo de l'orchestre Demos Avancés.